vont rester fermées dans les stations de ski en France en février. Il a beaucoup été question de l'impact du coronavirus sur l'économie de la zone euro quand Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, a pris la parole cet après-midi pour faire un point sur ce qui a été dit aujourd'hui lors de la réunion du comité de politique monétaire. Christine Lagarde a prévenu qu'en dépit du début de la campagne de vaccination, des risques sérieux, ce sont ses mots, pesaient encore sur les économies de la zone euro. C'était Marjorie Ancelot d'Investir.fr.
Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci à vous de votre fidélité à la Radio du Monde. Il est maintenant 18h10 dans nos studios ici à Paris.
Radio G. www.radio-g.fr.
Bonsoir, vous êtes sur les ondes de Radio G, le 101.5 FM à Angers. Bienvenue à l'écoute de l'Oreille Curieuse, votre rendez-vous quotidien du lundi au jeudi. Ce soir, l'émission retrouve son sujet de prédilection, à savoir les actualités culturelles et locales. Premier plan, le festival des premiers films européens débute ce lundi 25 janvier. Pas de séance en salle, on en est tous assez tristes, mais vous pourrez découvrir une partie de la sélection officielle et des rétrospectives en ligne grâce à des séances sur la Cinéthèque ou la 25e heure. Et une partie de ces séances, 12 au total, sont gratuites. On en parle ensemble en début d'émission. Chaque jeudi, nous vous proposons aussi de découvrir le dispositif du service civique grâce à une série de reportages réalisés avec la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. On ira aujourd'hui du côté du Mans. En fin d'émission, on prendra quelques minutes pour parler de deux actualités. Ce matin, à Angers, le squat de la Grande Ourse a été expulsé. La Grande Ourse, qui est un collectif qui met en avant notamment les questions de logement et surtout de mal-logement. Et nous parlerons de l'AAH, l'allocation adulte handicapé, dont le calcul, aujourd'hui en France, se base sur les ressources d'un couple, si couple il y a bien sûr, mais il serait quand même temps que ça change pour des questions d'autonomie. Derrière le micro, c'est Anne Lee et le proverbe qu'on a choisi en équipe et validé en équipe. Pour ouvrir cette émission, c'est « Il n'y a point de génie sans un grain de folie ». C'est un proverbe attribué à Aristote qui nous daterait du 4e siècle avant Jésus-Christ. Ça fait donc très longtemps qu'il est pertinent. Je vous souhaite de l'avoir dans un coin de votre tête à peu près tous les jours. On va bien sûr commencer l'émission en musique avec un titre de Johann Papakonstantinou, qui est un musicien vivant à Marseille et aux influences grecques. Le titre, c'est Siftetlelix. C'est très dur à dire. Je vous souhaite une bonne écoute. Je suis heureuse de pouvoir vous parler aujourd'hui d'une actualité culturelle. Comme chaque année, et malgré tout, et notamment malgré la fermeture des salles de cinéma, nous aurons le plaisir de retrouver le festival Premier Plan à partir de lundi, le 25 janvier, c'est la semaine prochaine. Et pour en parler, nous recevons Véronique Chara. Bonsoir Véronique.
Bonsoir.
Tu t'occupes de l'action culturelle et de la communication au sein, oui, du festival. Et nous sommes aussi avec Arnaud Gourmelin. Bonsoir.
Bonsoir.
Tu es responsable de la programmation et tu t'occupes de coordonner l'équipe qui sélectionne les films. C'est bien ça ?
Tout à fait, c'est ça.
Alors, Premier Plan, c'est un festival qui est très apprécié par les Angevins, les Angevines, on en parle souvent. Les compétitions, on le sait, sont ouvertes au premier film, c'est ça l'identité, et au premier film européen, qu'il soit long, court, animé. Mais il y a aussi, bien sûr, chaque année, des rétrospectives pour nous permettre de plonger au cœur du patrimoine cinématographique. Alors, le contexte, il est pas du tout comme d'habitude, assez complexe, avec les salles de cinéma fermées. Mais vous avez quand même fait en sorte que le festival existe à nouveau cette année. Comment on va pouvoir accéder au film dans ce contexte en tant que spectateur et spectatrice? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça?
C'est vrai que ça n'a pas été une année simple, ça on le sait, pour le monde de la culture. Ça n'a pas été simple pour nous, évidemment, de mettre en place ce festival. Depuis le mois de septembre, on s'est posé beaucoup de questions. Il y a des choses qu'on avait anticipées, d'autres non. Et c'est vrai que, par exemple, notamment pour la partie des rétrospectives, on avait décidé de s'associer depuis le mois de septembre avec un site internet qui s'appelle La Cinéthèque, qui est un site créé en gros pour que les cinéastes parlent des autres cinéastes. Et on avait déjà fait une opération l'an dernier avec eux, qui avait été très chouette, avec Olivier Assayas. Et on s'est dit, tiens, cette année, il faut absolument qu'on fasse quelque chose ensemble. Et l'idée, c'était au départ, évidemment, de faire de la programmation en salle et puis, parallèlement, pouvoir exposer les films de Premier Plan d'Angers dans toute la France et de les rendre accessibles. Évidemment, en arrière-pensée, on savait très bien que c'était aussi une espèce de backup. Mais l'idée, c'était vraiment à la base de pouvoir le faire de manière. On a dû réfléchir, on a dû penser. Ensuite, quand on a su que les salles allaient peut-être être restées fermées, on a essayé aussi de déplacer cette rétrospective aussi au Forum des Images à Paris. C'était mis en place et puis finalement, c'est totalement, pour l'instant, reporté. Mais on ne désespère pas. Je pense qu'on arrivera à montrer les films des rétrospectives au cours de l'année en salle sur grand écran.
Parce que c'est vrai qu'il faut imaginer que le festival, vous le préparez des mois à l'avance et que là, tous ces changements, bouleversements, passages en ligne, en fait, ça a dû se faire dans les dernières semaines, très rapidement.
Ça s'est fait, on a l'impression d'avoir préparé ce festival un peu trois fois, là, j'avoue, et d'en changer les modalités, mais en tout cas, on n'a jamais renoncé, quoi. Il y a toujours eu cette volonté. On se disait c'est trop bête. Après tout ce travail, on va quand même pas s'arrêter là. Et puis ça réagissait bien. On voyait bien, notamment parmi les rétrospectives, on avait préparé une rétrospective consacrée à Federico Fellini, une autre à Christian Petzold, qui est un cinéaste allemand majeur, de ces dernières années, qui est toujours en activité, hein. Et puis un hommage aussi très important à Chantal Akerman. Chantal Akerman, qui est une cinéaste belge, malheureusement trop tôt disparue, qui est une cinéaste, je me rendais compte ces dernières années, dont se revendiquent beaucoup de jeunes cinéastes et beaucoup de jeunes cinéphiles. C'est-à-dire, c'est une figure qui a marqué beaucoup, et un cinéma indépendant, un cinéma très libre, un cinéma extrêmement personnel. Et on sait autre chose qui est propre aussi à l'œuvre d'Akerman, c'est qu'elle est totalement indisponible en DVD, et c'est une œuvre extrêmement rare en fait aujourd'hui. Et on a pu, je remercie vraiment la Cinémathèque et la Fondation Akerman de Bruxelles d'avoir rendu ça possible, de nous permettre à la Cinéthèque et au Festival Premier Plan d'avoir accès aux films de Chantal Akerman dans des versions restaurées. C'est-à-dire que là, moi je vois circuler sur le dark web, on va dire, des copies souvent assez très mauvaises de ces films, et c'est assez navrant. Et tous ces films ont été restaurés par la Cinémathèque de Bruxelles, et là, on va pouvoir avoir accès, notamment sur le site de la Cinéthèque, donc j'en fais la pub, à partir de lundi prochain, avoir accès une dizaine de films de Chantal Akerman, et on a créé aussi un espace spécial Festival Premier Plan qui donnera accès aux spectateurs à 12 films de la rétrospective, 12 films de la des programmations pendant un mois, c'est-à-dire du 25 janvier au 24 février pour une somme assez dérisoire de 7 euros, mais c'est pas la question, mais bon, je veux dire, c'est vraiment pour pouvoir accéder à ces films-là c'est une opportunité assez unique, voilà. Et même si on maintient qu'on fera exister aussi cet événement en salle plus tard.
Ouais. Donc c'est en fait on découvre un festival en plusieurs temps. Donc là, à partir de lundi, on a une ouverture en ligne du 25 au 30. Donc la semaine prochaine, c'est on pourra découvrir la sélection qui est en compétition. Et puis, à partir de lundi et tout mois, là, comme on le disait, les rétrospectives par rapport à la sélection, c'est intéressant aussi parce que ça reprend vraiment le principe des salles de cinéma avec des séances qui sont en ligne et gratuites pour le coup, mais qui sont à heure fixe. Enfin, ça, c'est aussi quelque chose dont on n'a pas du tout l'habitude, en tout cas pour le moment, d'avoir rendez-vous avec un film à une heure précise en étant chez soi et on est plusieurs à le regarder en même temps. Là-dessus, c'est un partenariat avec la 25e heure.
Ouais, alors. C'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, les gens qui voient, les gens consomment aujourd'hui, le public, beaucoup de films hein, sur Internet et généralement, que ce soit sur les plateformes, quelles qu'elles soient, on choisit généralement l'heure à laquelle on voit un film. Nous, on avait quand même envie de garder aussi le côté un peu événementiel, c'est-à-dire d'éditorialiser le festival et de proposer un rendez-vous qui soit quotidien. Donc l'idée s'est faite avec ce site donc, qui s'appelle La 25e Heure. C'est eux à la base hein, qui avaient créé cette idée de la salle virtuelle, donc avec justement l'idée de être un peu comme au cinéma, avec une heure fixe, un horaire de séance, et puis et la possibilité de faire des débats à l'issue. Mmh. Et donc ça nous a séduit en fait d'inscrire la sélection et la programmation de Premier Plan dans ce cadre-là, c'est-à-dire de garder nos dates, c'est-à-dire du 25 au 31 janvier. Et tous les soirs à 18h et 20h30, en gros, on va présenter, non pas la totalité, puisque Festival Premier Plan, c'est à peu près 250 séances en 10 jours. Là, ce sera une douzaine de séances, enfin 12 séances même pour être précis, durant lesquelles on va pouvoir présenter la quasi-totalité de la sélection des longs métrages. Je remercie aussi tous les distributeurs, producteurs qui ont accepté de jouer le jeu. Et puis on a une sélection de courts-métrages. Voilà, ça paraît peu par rapport à tout ce qu'on offre d'habitude. Et en même temps, je trouve ça déjà super de pouvoir partager ces moments. D'autant que chaque séance sera accompagnée d'une rencontre avec les réalisateurs qui aussi jouent le jeu et seront là chez eux, hein, que ce soit à Moscou, à Athènes, à Bucarest, de chez eux, ils pourront dialoguer avec nous et avec le public.
Ouais, c'est vrai que, enfin, j'ai l'impression que c'est un mélange en fait en regardant cette édition de Premier Plan entre la frustration de pas pouvoir retrouver le festival et l'émulation et les rencontres telles qu'on les connaît habituellement, et en même temps c'est intéressant de voir ces nouvelles façons de diffuser le cinéma. On a d'un côté la VOD avec la Cinéthèque qui en plus fonctionne autour de films très importants du 20e recommandés par des réalisateurs, et puis la 25e heure qui travaille avec des salles pour reprendre vraiment le fonctionnement d'une salle avec un rendez-vous, on est ensemble au même moment, on sait qu'on est peut-être 400 devant un film derrière son écran mais quelque part ensemble. Enfin, c'est deux partenariats très différents mais qui ouvrent aussi des possibilités.
Oui, ben, après nous on espère retrouver la salle assez vite. Hein.
Oui, moi aussi, je vous rassure.
Mais c'est vrai que là en l'occurrence ça nous offre une opportunité voilà, un peu idéal pour quand même montrer ces films-là qui ont besoin d'exister, parce que c'est quand même ce sont des films on va dire relativement fragiles hein. La plupart n'ont même pas de distributeurs, il y a plus de salles et plus de festivals pour les montrer, c'est des films qui vont être vite enterrés, et c'est dommage parce qu'il y a dans ce cinéma européen il y a un éclectisme et une offre de films qui est très très riche et surtout qui est jamais formaté. Donc je trouve quand je regarde un peu l'étendue de la sélection, je me dis voilà, c'est vraiment quelque chose de d'anti-format. On vient et on découvre, on va découvrir des films, des documentaires, des essais, des fictions qui répondent pas à un cahier des charges précis et qui sont des films, je pense, très personnels, hein, comme toujours les premiers films, et très singuliers en tout cas. Mmh.
Oui, c'est vrai que c'est le début de souvent des carrières qu'on retrouve au festival. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de la programmation de cette année, peut-être de la sélection? Est-ce qu'elle a une couleur? Est-ce que toi tu as des coups de cœur? Plonger un petit peu au cœur de ces films qu'on va pouvoir voir.
Moi sur les coups de cœur j'ai toujours un peu de mal parce que responsable de la programmation, ça m'embête toujours un peu d'orienter.
Je savais que c'était une question piège.
mais en tout cas il s'est passé une chose, c'est par exemple l'an dernier on avait créé une section qu'on avait intitulée Diagonale. L'idée était que qui était à côté, on va dire, des films plus classique de fiction. Il y avait une richesse dans le cinéma européen de gens qui œuvrent, voilà, dans des écritures plus radicales, qu'elles soient visuelles ou narratives. Que ce soit dans l'essai ou le documentaire, on s'est dit c'est dommage. Et on trouvait qu'on avait manqué un peu de place pour montrer ces films-là. Et cette section nous permettait de le faire. Et ça, le public a très bien réagi. Et cette année, le fait que on soit contraint à réduire la programmation. Dès le mois de novembre, on commençait à comprendre que de toute façon, on ne pourrait vraiment pas montrer autant de films. Et du coup, on a dû commencer à faire des coupes et à décider qu'on ne pourrait pas montrer autant de films. Et c'est vrai qu'on s'est dit tout de suite, on ne peut pas faire à la fois la compétition premier plan, plus la compétition diagonale, plus la... Et je pense que la sélection, par exemple, des longs métrages, on a décidé aussi, finalement, d'y mêler un peu ces deux catégories. Donc je pense que c'est justement cette année une section un peu plus laboratoire peut-être que d'habitude, où vraiment les documentaires côtoient des fictions et des films de recherche. Il y a des films comme ça, hein, qui sont comme Le Kiosque sous influence d'Alain Cavalier. Il y a des films qui se passent dans le Donbass avec un documentaire en Ukraine qui est extrêmement lumineux et touchant. On a des films de fiction qui se passent au fin fond de la Russie, de la Sibérie, face à l'Alaska, ou d'autres à Istanbul qui racontent la société moderne. Je pense que quand on fait la sélection, il y a tellement de types de propositions que quelque part on a envie de restituer aussi au public, je pense, cette diversité. Comme des couleurs, comme ça. C'est un mélange de couleurs et on a envie de partager ça c'est une large palette. Et on n'a pas envie de formater le festival justement sur une seule couleur de programmation. Donc,
Et donc la compétition, elle est maintenue. Comment ça va se passer concrètement pour le jury, pour le visionnage des films, pour les délibérations? Pour les jurys.
Après, je vais te laisser la parole, hein, Véronique.
Parce que continue. J'apprécie de t'écouter.
Simplement, ça va se passer un peu comme la vie de tout le monde actuellement. C'est-à-dire, ça va se passer en ligne et ça va se passer sur visioconférence. C'est un peu dommage, mais pareil. C'est vrai qu'on a quand même, on a réussi à maintenir. Il y a quand même 4 jurys, hein, cette année. Le jury des longs métrages européens, ils voient les films en ligne et ils doivent se réunir la semaine prochaine. Je sais plus exactement à quelle date, hein. Mais on a vu que les visioconférences, les Zoom et autres, tous ces logiciels qui sont assez performants, hein, aujourd'hui, permettent quand même une bonne écoute et un bon dialogue. Et puis il y a d'autres jurys, ça va être par exemple le jury des films d'école. C'est drôle parce qu'il y aura des gens. Il y a une personne qui est à Montréal, une autre à Helsinki, une autre à Paris. Du coup, ça va faire des rencontres avec les juges qui vont jongler avec les fuseaux horaires. Et tout ça, c'est vrai que ça va se passer en ligne.
Mais ils ont un seul visionnage, ils peuvent regarder le film autant qu'ils veulent. Enfin, est-ce qu'il y a des modalités là-dessus? Je me demandais.
En gros, non, ils ont accès au fichier. S'ils veulent ils peuvent le voir plusieurs fois.
Ouais.
Généralement.
C'est pas très grave.
Non, mais enfin, moi, ça peut m'arriver, hein, de revoir un film parce que j'estime que j'étais. Je sais pas si mon téléphone sonne 3 fois pendant un film, il m'arrive de recommencer. Mmh. Mais mais c'est sûr, là, je peux pas être derrière eux pour contrôler qu'ils le voient dans les meilleures conditions, mais ce sont tous des professionnels, donc c'est quand même des gens qui regardent les films attentivement.
Ouais. Et premier plan, habituellement, ce sont aussi des moments d'échange, de rencontres. Je pense à tous les temps dédiés aux professionnels. Il y a les lectures de scénarii, il y a aussi toutes les séances qui s'adressent aux scolaires. Enfin, il y a énormément de choses qui sont un peu plus souterraines, entre guillemets, ou en tout cas auxquelles on ne pense pas tout de suite. Véronique, comment ça se passe pour ces événements-là ?
Alors, du coup, pour la partie professionnelle, on va aussi donner un accès aux professionnels pour qu'ils voient l'ensemble de la sélection officielle sur une plateforme de manière pro. Donc, ils auront aussi la possibilité de faire des repérages en restant chez eux. On a eu une autre approche après pour les scolaires et le jeune public. On est resté dans l'idée qu'on souhaitait leur montrer nos films en salle. Donc, il s'est passé deux choses. Dans le cadre des thématiques, des rétrospectives, il y en a une qui s'appelle l'évasion. Et elle est construite en particulier avec un comité de pédagogique d'enseignants qui, aux côtés d'Arnaud, participe à l'élaboration de cette programmation. Et en fait, elle était toute prête. Elle est toute prête et on s'est dit que ça n'avait aucun sens de la montrer en ligne pour des élèves. Du coup, on la garde pour l'année prochaine. Donc voilà, l'année prochaine, les élèves et les enseignants pourront revenir au festival autour de cette thématique et des nouvelles qui vont être construites avec Arnaud. Et puis, on avait aussi développé une sélection officielle de courts-métrages européens pour le jeune public. Ça s'appelle les chenapans.
C'est ça, voilà. Il y a un petit jeu de mots.
Oui. Voilà. Cette sélection des chenapans, on a souhaité la mettre au chaud et la garder jusqu'au mois de mai. Et donc, fin mai, les 400 coups et le pâté, Gaumont, vont nous réouvrir leurs portes pour peu que ça ait ouvert. Et on est en train de reporter toutes les séances scolaires de la semaine sur cette semaine de mai. Et puis, on aura un temps fort pour les familles le dimanche. Et toutes ces séances, en fait, ont un point commun, c'est que ce sera la seule séance où c'est les spectateurs qui pourront voter. Mmh. Et les plus jeunes spectateurs, ce sera la parole aux jeunes spectateurs. Et les prix seront dotés par une plateforme encore, une plateforme jeune public dédiée au cinéma jeunesse d'auteurs qui s'appelle Benchy. Mmh. Voilà, donc on a réussi à transporter cette partie du festival.
Ouais. Et là, c'est des films pour les 3, 6 et 9 ans, je crois.
Voilà, on a 3 programmes selon les tranches d'âge.
Ça me réjouit d'imaginer tous ces petits-enfants être jury pour la dotation.
Ouais, exactement, ouais. Surtout qu'on développe avec l'Éducation nationale une démarche sur comment amener les élèves et du coup, on donne des petites fiches pédagogiques aux enseignants sur comment amener les enfants à exprimer leur point de vue. Donc tout ça, on se le garde au chaud pour plus tard.
Ouais, plein de choses à arriver qui s'écrivent un peu au jour le jour.
Oui, de la même façon, mais là Arnaud, tu pourrais en reparler, mais on souhaite pouvoir inviter Christian Petzold à présenter ses films, mais ce sera plus tard et pas daté, du coup. Là, on ne sait plus. Ça reviendra plus tard. Donc voilà, et puis l'idée c'est de clôturer cette drôle d'édition à la fin du mois d'août, puisque premier plan, un second temps fort, peut-être repérer des Angevins, c'est les ateliers d'Angers. C'est un temps fort qui est plus basé sur le principe d'un workshop qui à l'origine avait été lancé avec Jeanne Moreau et qui depuis 15 ans accueille chaque année des jeunes réalisateurs qui viennent écrire leur scénario de premier long métrage, passer un petit temps pour travailler sur leur scénario. Et puis, autour de cette résidence d'écriture, on a maintenant beaucoup de propositions. Arnaud programme donc des films en avant-première. On propose des stages pratiques pour découvrir le cinéma de manière un peu ludique. Et donc, la résidence d'écriture serait reportée au Festival 2022. Mais tous ces temps grand public nous permettraient de clôturer en beauté le festival avec également les lectures de scénarios dont on n'a pas reparlé.
Ouais.
Les scénarios ont été sélectionnés et on les organisera sur cette dernière partie du festival étalée jusqu'au mois d'août.
Bon, finalement, c'est bien, au lieu d'avoir un festival uniquement en janvier, on vous a toute l'année.
Exactement.
Je suis au max de mon positivisme.
Ouais, merci, pourvu que les salles ouvrent en tout cas.
C'est clair. Et puis dans les autres idées ou choses réjouissantes que vous proposez, on peut devenir la star de l'affiche de premier plan 33e édition. Vous invitez qui veut
télécharger alors le fond habituel qu'on a bien identifié et on peut la réinventer, la réimaginer.
C'était un rendez-vous donné à nos publics pour qu'ils se rendent visibles en fait sur les réseaux sociaux. On leur propose de réinventer l'affiche puisque l'affiche du festival cette année est basée sur un photogramme de Golden 80s de Chantal Akerman où on voit un petit groupe de femmes un peu hurluberlu regarder de près la caméra. Et donc on invite les spectateurs à se remettre en scène. Et d'ailleurs, j'invite l'équipe de Radio G à répondre, à relever le défi, voir à ce que les autres émissions de Radio G puissent jouer le jeu. Voilà, c'était un clin d'œil qui peut se partager facilement sur nos réseaux sociaux et donc dans ce mode virtuel.
Ouais. Et puis qui est amusant aussi.
Voilà, un petit clin d'œil ludique. Ouais, ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres choses très importantes qu'on a oublié de signaler sur cet événement alors qu'il débute en ligne lundi, on sera le 25 janvier?
Ouais, je voulais juste peut-être rajouter une chose sur les séances, les 12 séances de la 25e heure. Mmh. Elles sont gratuites, mais elles ne sont ouvertes que à 400 personnes, comme dans une salle de cinéma. Il y a une jauge qui était le moyen de pouvoir demander l'accès au film aux ayants droit. Donc dépêchez-vous, toutes les modalités pour réserver seront en ligne en fin de semaine. Donc voilà, on compte sur vous, on vous attend et Arnaud Gourmelin et son équipe vous attendent pour les débats qu'il va animer à l'issue des films de long métrage avec les réalisateurs.
Ouais, et moi j'ajoute une chose, ce que tu dis Véronique, c'est que en gros, déjà je sais que c'est pas forcément ultra clair pour tout le public le fait qu'on soit sur plusieurs sites et tout ça, donc sur le site internet www.premierplan.org vous aurez toutes les informations un peu nécessaires et sur la partie, ce que tu dis Véronique, des réservations pour la partie compétition, elles seront ouvertes demain et elles seront ouvertes en tout cas dès demain pour les séances de lundi et mardi déjà. Et ensuite, on ouvrira en début de semaine les autres séances, voilà, de manière à ce que tout le monde puisse réserver, pas tout d'un coup, voilà, pour que puisse être un peu partagé entre les publics.
Ouais.
Donc rendez-vous la semaine prochaine en tout cas.
Ouais, donc on mettra toutes les infos en ligne sur le podcast de l'Oreille Curieuse, sur le site de Radio G. Effectivement, tout est sur premierplan.org. Et on a rendez-vous dès lundi. Alors sur la Cinéthèque pour les rétrospectives, avec un pass à 7€ pour accéder à tous les films des rétrospectives, si j'ai bien compris.
Alors tous les films qu'on a choisis, c'est-à-dire une douzaine,
ouais. Ce qui est beaucoup. Enfin, ouais. Moi, je serais très satisfaite. et puis découvrir la sélection, la compétition à partir de lundi et juste pour une semaine, car c'est un festival. Cette fois-ci, grâce à la 25e heure.
Merci.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Arnaud.
Merci.
Et merci beaucoup Véronique.
Et au plaisir de se retrouver dans les salles de cinéma. It's 11 a.m. The sun spins on itself. Try to get out of the bed, but your body is reluctant. Is there a chrysalis or a deep crevice I could hide and synthesize what's happening?
C'était le titre Synthèse avec le groupe Uto. Vous êtes toujours à l'écoute de l'oreille curieuse sur les ondes de Radio G. Et maintenant, nous allons retrouver un reportage autour du dispositif du service civique. On part au Mans.
S'engager de 6 à 12 mois, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire 30 ans pour les personnes en situation de handicap, s'engagent au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission? Et quel constat du côté des structures accueillantes? Volontaires en service civique, un engagement, des réalités, une production des radios associatives en Pays de la Loire.
Lors de la dernière partie de cette enquête, en Sarthe, nous avions rencontré Yannick Gourmil, responsable des animations à la cité scolaire de l'Absalette Saint-Vincent au Mans. Il hésitait entre plusieurs services civiques. Finalement, au moment où il a fait son choix, ses candidats avaient trouvé d'autres postes. Il a donc dû recommencer tout le processus.
Chaque période de recrutement est unique. L'année dernière, je me suis dit « je ne suis pas allé assez vite ». Et du coup, cette année, je me suis dit, je suis allé trop vite. Enfin, en fait, je pense que c'est un peu unique, ça dépend vraiment du feeling. Et je me dis que oui, effectivement, j'aurais peut-être pu avoir la première personne que j'avais présélectionnée. Et j'aurais peut-être pas rencontré Célia, peut-être qu'il n'y aurait pas eu la même dynamique. Enfin, je pense que c'est un peu unique. Et je me dis que je verrai au feeling. Et l'année prochaine, je me dirai, alors, qu'est-ce que j'avais fait? Je ne sais plus. Donc, du coup, je repartirai à zéro et je repartirai avec d'autres constats qui seront différents.
Confinement oblige, les entretiens se sont faits en visio. Pour Célia, la service civique qu'il a recrutée, 23 ans, c'était plutôt bénéfique.
Alors, moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais moins stressée. Après, c'est peut-être mon tuteur qui m'a mis à l'aise tout de suite. Le fait qu'on est que en visio, en fait, on n'a pas quelqu'un en face de nous présent, en fait, ça nous met peut-être moins de stress. Donc ça s'est bien passé. Donc pour moi, je jouais pas trop, je jouais pas mes études ni ma vie, en fait, parce que les autres, l'alternance, c'était vachement pour valider notre diplôme ou le stage, c'est pareil pour valider notre diplôme. Alors que là, c'était plus je fais quelque chose qui va augmenter mes capacités dans la communication, mais en même temps, je gagne un petit peu de sous. En tant qu'étudiante, c'est toujours agréable.
Pour Yannick, par contre, il y a quelques inconvénients au fait de se voir à distance et de ne pas pouvoir se rencontrer avant le premier jour du service civique.
Avec Célia, la première rencontre a été en visio. Du coup, je pense que ça, c'est une première chose qui montre la différence aussi. C'est autre chose qu'un coup de téléphone. Mais oui, c'est sûr que c'est pas la même chose qu'une vraie rencontre physique.
Quand je suis arrivée sur l'établissement, Je commençais ce jour-là, en fait. Et j'avais jamais vu l'établissement, je savais pas où il était.
Je pense que c'est vraiment cette dimension-là, la dimension de repère du site, du lieu où on fait l'activité. Je pense que c'est ça la plus grosse différence.
Si Célia a décidé de postuler à ce service civique d'animation à la cité scolaire L'Absalette Saint-Vincent au Mans, c'est parce qu'elle n'a pas trouvé d'alternance pour valider son master en événementiel.
En fait, je cherchais une alternance cette année. N'ayant pas trouvé, parce que l'événementiel avec la Covid, c'est un petit peu compliqué, je me suis tournée vers le service civique parce qu'il y a une amie qui m'en a parlé. Et comme j'ai fait pas mal de colonies et que j'ai passé mon BAFA, je me suis dit pourquoi pas dans l'éducation nationale. Oui, j'avais postulé, je crois que c'était au niveau de l'animation culturelle au Mans. Il y avait pas mal de choses. En fait, je voulais mettre quelque chose en lien qui était quand même avec mon projet d'études. Là, je fais de la communication au sein de l'établissement et c'est quand même une grosse partie dans l'événementiel. Donc, en fait, ça m'entraîne. Ça m'entraîne et c'est cool parce que ça se complète.
Le premier jour de Célia a eu lieu en plein confinement, début novembre, mais cela n'a pas eu beaucoup d'impact plus que les activités du collège, elles, se poursuivent.
C'était Volontaire en service civique, un engagement des réalités, une production des radios de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
Chers auditeurs et auditrices, je fais face à des dilemmes quand je prépare et réalise cette émission en direct. Je vous ai promis deux sujets en introduction tout à l'heure à 18h10, mais le temps est passé à toute vitesse et là il me reste 2 minutes 5 pour vous dire toutes les choses que j'ai encore à vous dire. Donc plutôt que de survoler les sujets, je vous en parlerai à partir de lundi à 18h10 toujours, la semaine prochaine. Si vous avez envie quand même de prendre de l'avance, de faire vos recherches pour avoir des regards contradictoires, vous pouvez aller regarder du côté de l'AAH, allocation adulte handicapé. Il y a une pétition qui est en ligne, si vous cherchez le hashtag, comme on dit, signé pour notre autonomie, vous allez trouver des infos. Sinon, je vous dirai tout ça lundi dans le détail, en précision, ce sera tout préparé, tout chaud pour vous. Je voulais aussi vous dire quelques mots, mais pareil, le temps est assassin. Comme dirait Véronique Sanson, la Grande Ourse qui a été expulsée ce matin de l'ancien bâtiment qui était un magasin de meubles. Peut-être si vous passiez dans la Doutre au bord de la Maine, vous aviez remarqué cet endroit qui n'avait pas l'air d'être un magasin de meubles habituel. C'est normal, c'était un squat. À partir d'aujourd'hui, plus personne n'y vit. Alors peut-être que des personnes s'en réjouissent, certainement que d'autres en sont attristées puisque c'est aussi un lieu pour parler du mal logement et imaginer d'autres choses, un peu d'utopie, on a besoin de ça en 2021 peut-être. Bon, je laisse ces questions ouvertes pour ce week-end. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup à vous d'avoir été à l'écoute de cette nouvelle émission. Vous pouvez la retrouver en intégralité sur la page de L'Oreille Curieuse, sur le site de Radio G. Les podcasts sont en ligne avec toutes les infos. N'hésitez pas à les regarder, notamment à propos du festival Premier Plan qui recommence ce lundi 25 janvier. Ce sera en ligne, mais il y a plein de beaux films à voir et dont la sélection de la compétition où vous pourrez visionner des films gratuitement. C'est une bonne aubaine, sachant qu'il faudra quand même réserver. Je m'arrête là pour pas finir en retard vu que c'était pas l'objectif. Passez une très bonne soirée, bon week-end, à lundi.
Radio G 101.5 FM.
came into my room. One will settle the nerves or take the edge off. I've only got so many left to lose. I'll pick and choose.
This is the middle. love you.